BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Bah oui, je sais. Alors, il y en a qui sont inquiets parce qu'ils se demandent s'ils vont avoir de la neige pendant les vacances. Et puis d'autres qui font la gueule parce qu'ils partent pas en vacances. Bah oui, mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle, parce qu'on va revenir sur tous les événements de la semaine qui vont avoir un impact sur l'économie, sur la finance, sur les placements, sur les marchés. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être résister. Vous allez savoir pourquoi. La question macro, c'est quelle est finalement, parce qu'on parle évidemment tout le temps d'un point de vue politique du sujet de la retraite, quel est l'impact macroéconomique, est-ce qu'il y a un impact macroéconomique du sujet de la retraite et évidemment de la réforme potentielle de la retraite. Un chiffre, le taux dit, j'adore cette expression, le taux terminal des banques centrales, on verra ce que c'est tout à l'heure. Une deuxième partie de l'émission, ben pourquoi cette hausse des indices boursiers, on a fait encore un record hein, sur le CAC 40 jeudi, depuis le début de l'année, est-elle aussi mal aimée? Le Wall Street Journal parle du most hated rally, le rally, la hausse la plus détestée par les investisseurs. Quel secteur boursier faut-il privilégier? Les mots de la semaine de nos Jedi, le top 3 des gérants pour la semaine et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, et celle-là, je vous l'annonce, elle va être exceptionnelle. Il nous faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Si seulement je l'avais eu comme professeur d'économie, Emmanuel Le Chip arrêterait de me dire que je ne comprends rien. Anne-Sophie Alcy, vous êtes chef économiste de BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne. Vous ne faites pas des cours de rattrapage pour des gens comme moi?
Si, vous êtes le bienvenu.
D'accord, il y a des trucs du soir où je peux...
Courbe de Phillips, modèle ISLM...
C'est vrai, je peux... Et vous pensez que je peux arriver à comprendre ou ça va être...
Il faut venir plusieurs fois.
Elle est dure. Ah, mais je pensais qu'elle allait venir, mais non, vous n'avez pas besoin du tout. Il faut venir plusieurs fois.
Il faut venir plusieurs fois.
On cherchait un gérant qui l'a joué collective et qui on sent comme à la maison. Bah, évidemment, qui on a trouvé? Bah, Sébastien Corchia, parce qu'il est responsable des gestions collectives chez UBS, la maison de gestion. Comment ça va, Sébastien? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Très content de vous retrouver.
Et très content d'être ici avec vous, Marc. Merci.
Elle aussi, vous verrez, aime travailler en équipe et elle maîtrise parfaitement l'art de l'allocation d'actifs et de la gestion de patrimoine. C'est normal, elle est team manager chez Odo BHF Private Bank. Bonjour Pascal.
Bonjour Marc.
En forme?
Très en forme.
Malgré sa mauvaise foi légendaire et malgré le fait qu'il ne soit jamais d'accord avec moi, je ne peux pas me passer de lui. C'est le seul, l'unique, Emmanuel Le Chiffre himself. Comment ça va, Emmanuel?
Très bien.
Je vous attrape avant de partir en vacances?
Exactement.
À la fin. Donc vous avez le sourire.
Je pars en vacances, rassuré.
Bah vous êtes toujours rassuré. Est-ce que franchement, vous... attendez, on s'arrête deux secondes.
Pas vrai.
Est-ce que vous avez déjà été négatif ou pessimiste?
Vous lisiez un journal qui s'appelait L'Expansion il y a quelques années.
Ouais,
il y a quelques décennies. Pour les plus pessimistes, quand on était les meilleurs prévisionnistes. Enfin, non, on avait été élus parmi les meilleurs parce que on avait des prévisions pour le coup qui étaient souvent très basses. Je me rappelle des années où on annonçait des récessions, personne nous croyait, où on avait vraiment.
Ça c'était entre les deux guerres.
Et ça c'était on est dans les années 90. Début des années 2000. Et donc, voilà, c'est pas une grille de lecture, c'est pas un tropisme, vous voyez, d'être toujours optimiste.
Mais enfin, c'est un peu votre nature quand même. Vous êtes plutôt positif.
Pas forcément, non.
Allez, on parle du mot de la semaine, j'ai choisi résister. Ben oui, comment l'économie fait-elle pour résister? Alors, sur ce plateau, on est passé de l'anticipation, alors pas tout le monde, hein. Mais on est passé globalement, parce que j'entends déjà des murmures, de l'anticipation de récession à un ralentissement, voire une croissance zéro avec un scénario, c'était celui d'Emmanuel qui disait il va rien se passer de grave, donc arrêtez de vous inquiéter. Et maintenant, même le ralentissement, c'est-à-dire ce scénario zéro plus, semble être moins fort que prévu. Exemple de surprise cette semaine, les ventes au détail aux États-Unis qui ont flambé de 3% malgré l'inflation, malgré un taux d'épargne qui se casse la figure. Alors, Anne-Sophie, je me rappelle très bien que vous nous aviez dit arrêtez de parler de récession, il ne va pas y en avoir. Donc, vous n'êtes pas surprise.
Non.
Mais est-ce que vous êtes surprise quand même par la vigueur? Parce que, OK, qu'il n'y ait pas de récession, Emmanuel nous l'avait dit aussi, on va rester à zéro plus. Mais là, ce n'est pas ce dont on parle.
Non, ce n'est pas ce dont on parle. C'est vrai qu'on avait calculé pour 2022 ce qu'on appelle les acquis de croissance. Donc,
oui.
On voyait que déjà pour 2023, en tout cas pour la France, on était à niveau positif. Donc, c'est vrai qu'on se dit on peut remettre en cause ces indicateurs, mais globalement, c'est assez robuste dans le temps. Donc, on n'était pas sur une séquence de récession. Et même au niveau de la zone euro, on voyait qu'il y avait quand même des améliorations, notamment quand quand on regardait le marché de l'emploi, quand on regardait les perspectives même de croissance potentielle, même si c'est fort, en fait, on est vraiment dans un fort ralentissement, mais pas dans une récession massive. Ralentissement, on le sait, hein, crise géopolitique, inflation, et puis aussi ralentissement de la consommation des ménages, hein, qui est le premier moteur de croissance, et qui, en effet, là, va ralentir au moins le premier et le deuxième trimestre, ce qui explique qu'on a une contraction importante.
Où ça, ralentir? Parce qu'aux États-Unis,
alors,
ça n'a pas ralenti.
Pas aux États-Unis, en zone euro, particulièrement en France. C'est pour ça qu'en France, nous, on est à 0,6% cette année de croissance. On n'est pas à 1 comme le gouvernement, mais pas non plus à 0, parce qu'on pense qu'il y aura de la consommation. Mais par contre, en effet, elle sera très ralentie. Pour le reste de la zone euro, on a les mêmes tendances qui vont être plus accentuées. C'est pour ça qu'il y a certains pays qui pourraient être en récession. On parle de l'Allemagne, l'Italie qui serait sur un fil. Les autres pays, ça devrait aller, puisque justement, on a toujours ce fameux stimuli budgétaire qui va continuer, plus ciblé, mais il va continuer au niveau des États, encore cette année. Et donc, ça va nous permettre de sauver les meubles, on va dire, entre guillemets, d'avoir toujours un minimum de consommation, un marché de l'emploi qui reste important, parce
c'est ça,
qu'on a toujours,
quand même le...
on a toujours créé, avec ce stimuli budgétaire, voilà. Tout à fait, voilà. On a de la demande qu'on a créée, donc il faut avoir de l'offre d'emploi. Et donc, quand vous prenez ces deux corollaires avec, en plus, je ne dis pas les hausses des taux qui vont permettre de faire baisser quand même progressivement l'inflation, eh bien, finalement, vous n'en sortez pas si mal.
Emmanuel Le Chypre, je me rappelle, donc vous nous avez répété ici à chaque fois, hein, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, et puis arrêtez de vous inquiéter. Mais quand même, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, mais il y a la guerre en Ukraine, il y a les taux d'intérêt qui ont remonté, il y a la consommation qui marque le pas, et tout ça, ça donne quand même des chiffres qui sont, bon, finalement, ok, bah, si on fait en France entre 0,6 et 0,9%, c'est quand même pas mal.
Bah oui, parce que alors ça fait partie des, quand on disait en fait 2022 ça a été l'année des scénarios extrêmes, oui. Et des chocs extrêmes, oui. Et 2023 ce sera une année au cours de laquelle il ne se passera aucun événement extrême, c'est ce qu'on avait dit, mais c'était pas de la prédiction, c'est parce qu'à chaque fois que vous regardez finalement un risque potentiel, ce risque potentiel est porteur lui-même des effets correcteurs de ce risque potentiel. Prenez par exemple, vous pouvez avoir le scénario que vous voulez sur la croissance chinoise, qui est quand même un des gros aléas de l'année. Vous voyez bien que quel que soit le scénario, croissance forte, bah ça génère quelques inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Croissance faible, même chose. Si vous avez une croissance faible, c'est une bonne nouvelle pour les matières premières et l'inflation. Si vous avez une croissance forte, c'est une bonne nouvelle pour notre croissance à nous aussi. Et donc,
d'accord, mais
quand vous regardez
ça...
les deux événements dont vous citez, que vous citez, par exemple, c'est intéressant. La réalité de la guerre en Ukraine, c'est que son impact sur l'économie mondiale est de plus en plus faible. C'est-à-dire, on ne sait pas combien de temps ça va durer, effectivement. C'est totalement dramatique.
On ne sait pas ce qui va se passer l'hiver prochain.
On ne sait pas ce qui va se passer l'hiver prochain. Non
sur
plus.
L'électricité, si, sur le gaz.
Mais si, justement. Prenez par exemple, ça aussi, quand on exclut les scénarios extrêmes, on dit, attention, tous les pays vont se remettre à racheter du gaz à la fin de l'été,
non,
ça va être terrible.
En fait, non.
Non, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? C'est que tout le monde s'est mis, en Europe notamment, de façon totalement désordonnée, à acheter du gaz. Il y a eu quand même mouvement de panique, en même temps, tout le monde voulait avoir
son gaz.
À n'importe quel prix. Là, on a quand même mis en place des mécanismes qui devraient éloigner. Je ne dis pas que les prix du gaz, encore une fois,
non,
ne
vont
pas.
J'ai compris.
Mais vous voyez, les pics qu'on a connus, ça on ne les aura pas. Et la bonne nouvelle, et moi je pense que vous parliez juste des taux d'intérêt pour finir, l'événement pour moi le plus important, c'est qu'en fait, tout le monde prend conscience que la hausse des taux d'intérêt ne doit pas faire peur, et que la hausse des taux d'intérêt est au final, au bout du bout, une bonne nouvelle pour l'économie mondiale.
Bon, alors ça, on va y revenir tout à l'heure.
La hausse des taux d'intérêt des banques centrales.
Sébastien Corchia.
Oui, un petit mot qui permet aussi de montrer pourquoi l'économie, au moins à court terme, est dopée, c'est qu'on a vécu dans un monde quand même qui était un monde de pénurie, et le mot pénurie, c'est un mot que vous n'avez plus aujourd'hui. C'est-à-dire que même sur le monde des voitures, vous achetez une voiture.
Post-Covid.
Post-Covid, on vous disait une voiture, il faut attendre 2 ans. La réalité, c'est qu'avec l'ouverture de la Chine, au mois de janvier, qui a été annoncé, les ports se sont libérés, les marchandises sont arrivées, et donc les usines tournent parce qu'elles n'ont plus de problème de pénurie, semi-conducteurs ou ce que vous voulez. Ça fait tourner le PIB. Et quant au consommateur, il était lui-même en attente en se disant bah, tiens, j'aimerais bien acheter cette carte vidéo, mais elle est trop chère, elle n'est pas disponible. J'aimerais bien acheter cette voiture. Elle n'est pas disponible, j'ai pas envie d'attendre 2 ans. Et tout d'un coup, on a un consommateur qui n'a pas consommé beaucoup finalement. Il a consommé au mois d'octobre, on l'a vu dans les chiffres américains, là, qui a consommé au mois d'octobre parce qu'on lui a fait un Black Friday pendant 3 semaines à moins 50%. Il n'a plus rien consommé en novembre-décembre. Puis au mois de janvier, ils se retrouvent avec un salaire quand même aux États-Unis, mais Europe qui commence à réaugmenter. Il y a toujours de l'emploi, il marche bien aussi en Europe. Donc les gens ont de l'argent, ont du travail, et puis ils ne pouvaient pas acheter des biens, et les biens sont là. Et les usines tournent. Donc attention, à court terme, on a finalement un effet d'offre qui permet à l'économie de tourner,
tous les
mais pas forcément un effet de demande.
Tous les goulets d'étranglement et de pénurie post-Covid qui, du fait du ralentissement de l'économie relatif, permettent à l'économie de se tenir.
Donc et d'accélérer un peu
ce que vous dites.
La même chose sur tout ce qui a fabriqué l'inflation.
Il y a Pascal qui veut.
Vous voyez bien que tout est en train de ralentir et de nous conduire à un ralentissement quand même assez marqué de l'inflation.
Le coût du fret, c'est assez spectaculaire.
Ah, on est revenu quasiment au niveau d'avant.
Il est revenu au niveau d'avant.
Peut-être juste pour compléter.
Très rapidement.
Si on parle de minutes des entreprises, les carnets de commandes étaient quand même plus que pleins, ce qui a énormément soutenu la croissance en partie l'année dernière et a permis quand même de passer la crise de manière relativement OK. Et en ce début d'année, on est encore en train de surfer sur cette vague. Nous, quand on parle à nos clients qui sont des chefs d'entreprise, ils nous disent que les carnets de commandes leur permet vraiment de continuer à finalement...
Ils ont une visibilité.
Ils ont une visibilité. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les secteurs, mais dans la globalité, le discours des entrepreneurs, il est plutôt positif. Et je pense que ça va aussi fortement soutenir la croissance faible, certes, mais tout de même là, sur l'année 2023.
Oui, pas si faible que ça. Allez, on passe à la question de la semaine. J'avais une question vraiment très simple. Est-ce que le sujet de la retraite est un sujet macroéconomique ou seulement politique ? Bon, quelle pagaille, on n'en parle pas, j'ai tellement honte. Le débat à l'Assemblée nationale sur les retraites, c'est achevé donc vendredi à minuit. C'est pas terminé. On risque d'avoir un mois de mars agité. Au-delà de la dimension politique, Anne-Sophie, quel est l'impact du problème des retraites sur l'économie française et quel impact aurait la réforme envisagée ? Est-ce que c'est de la macro d'abord ?
C'est de la macro. C'est de la macro. D'ailleurs, Bercy au début avait pour objectif aussi d'avoir ça comme élément de langage en disant c'est aussi un élément macroéconomique. Vous augmentez le taux d'emploi, notamment des seniors, qui est normalement un phénomène mécanique quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite, et bien forcément vous créez plus de richesses, vous cotisez plus, donc il y a vraiment plus de PIB qui est créé. Donc il y a un effet macro qui est assez substantiel. Quand vous regardez les autres pays où le taux d'emploi des seniors est beaucoup plus bas, ben vous voyez que même si vous gagnez 2-3 ans, c'est un véritable impact macro. Le problème que l'on a
sur la croissance potentielle
et sur la création de richesses.
Okay.
Alors c'est plus sur la création de richesses. Okay. Alors après, à quoi on l'alloue ? Il faut se souvenir aussi, au début, le gouvernement disait cette réforme des retraites, ce qu'on va gagner, on va le mettre à la transition écologique. Et puis bon, globalement, en fonction de comment le projet a été mené, voilà, c'est pour les retraites. Et puis maintenant, on n'en parle plus du tout. La difficulté, c'est que c'est un argument de fond, qui est aussi un argument politique, parce que c'est l'idée de se dire, en effet, on va dégager des marges de manœuvre budgétaires. Et la question, c'est pourquoi faire ? Et là, en effet, c'est une question politique, parce que la transition écologique, peut-être que tous les citoyens ne sont pas d'accord avec ça. Peut-être qu'on préfère les mettre à la retraite. Peut-être qu'on préfère les mettre à la santé, l'hôpital, l'éducation. Donc, il y a un vrai choix. Mais en effet, macroéconomiquement, ça a un vrai impact sur la croissance potentielle et sur des marges de manœuvre budgétaires. Le problème, c'est qu'on l'a vu depuis le début de la réforme, après le quoi qu'il en coûte et toutes les aides, l'aspect budgétaire et macro, vous dites
inaudible.
Ça aujourd'hui, est complètement inaudible. Ça paraît très lointain.
On va maintenant, vous dire, quand on dit 30 milliards d'économies, les gens, ils ont l'impression d'avoir, on leur dit, le bouclier tarifaire, il a coûté 100 milliards. Ouais, bon, on s'en fout, 100 milliards.
C'est ça vraiment le problème. Donc cet argument, on va dire, macroéconomique, n'est pas du tout mis en avant parce que ne porte pas l'adhésion.
Sujet macro ? Vous, économiste, c'est un sujet que vous regardez ?
Alors, en théorie, je suis d'accord. C'est vrai que, par exemple, l'idée qu'on va repousser l'âge de la retraite, ça fait plus de manœuvres, c'est quelque part un choc d'offre.
Pourquoi en théorie,
réalité, quand vous regardez toutes les études d'impact sur cette réforme, on est sur une réforme qui est aux effets très faible.
C'est-à-dire que quand pas vous regardez. À court terme, à long terme, on peut regarder ce que les autres pays ont fait, on peut le voir.
Ça tient vraiment à la réforme qui est faite cette fois-ci et à tout ce qu'on a mis autour pour essayer d'en atténuer les effets. C'est-à-dire qu'en gros, faut être très clair. Cette réforme, elle va jouer sur quoi ? Elle va jouer sur quelques mois, voire quelques trimestres de cotisation.
Mais sur la durée,
quelques
c'est
Français,
énorme.
Et ça va jouer, au bout du bout, sur quelques dizaines d'euros à la fin du mois pour les retraités. C'est tout. Ça va pas faire tant de choses que ça. Le système ne sera quasiment pas.
C'est pas la même question, parce que là, vous parlez en termes de pouvoir d'achat net pour le retraité. Là, c'est vraiment l'effet macro sur la croissance.
Mais sauf qu'après, il faut regarder.
La question, c'est l'effet macro.
Oui, mais l'effet macro d'une réforme des retraites. Théorique, oui, je suis entièrement d'accord, mais de cette réforme-là, qui en fait est une mini-réforme, qui aura très peu d'impact globalement sur tout ça, quand vous regardez par exemple, vous prenez, on parle les Français les plus modestes, il y en a les deux deux tiers pour lesquels cette réforme n'aura aucun impact. C'est ce que dit l'Institut des politiques.
Oui, mais ça, c'est au niveau du pouvoir d'achat. C'est pas par rapport à la croissance.
Ah bah oui,
croissance.
Mais le pouvoir d'achat, ça a un impact.
Non, par rapport à la croissance.
Un autre élément.
Oui, mais si vous voulez, la croissance, ça vient bien aussi de votre pouvoir d'achat.
Pas seulement.
Oui, mais
donc,
pas seulement. Il y a d'autres indicateurs.
Ah voilà, moi j'ai suivi les cours.
Ce que je veux dire, c'est que c'est, enfin, quand vous regardez,
c'est lui qui doit aller encore une fois.
Pas la même chose.
Non, mais ça là-dessus, si vous regardez le nombre de gens qui vont vraiment devoir travailler plus, vous voyez bien qu'il y en a pas tant que ça qui vont devoir.
La création de richesse.
Mais la création de richesse de quoi? Qui va venir d'où?
La création de richesse de quoi?
Vous allez travailler plus longtemps, vous créez plus de valeur ajoutée, vous allez plus cotiser.
Mais ça, réforme des retraites ou pas?
Vous pouvez regarder dans les autres pays.
Avec le vieillissement qui fait que de toute façon, et la pénurie de main d'œuvre qui fait que les entreprises de toute façon vont devoir très vite et beaucoup plus vite que la réforme des retraites ne le suppose, faire travailler.
La parole est à la Défense.
La Défense répond, regardons ce qui s'est passé chez nos voisins. On a des exemples, donc regardons. Pour le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, dès que vous avez augmenté l'âge de départ, vous avez...
Juste
pour finir, sur cette réforme-là, vous avez un effet macro, notamment en termes de création de richesse. Et après, c'est ce que je disais dans le deuxième temps, où vous le distribuez, à qui vous le donnez, ça c'est un autre sujet. Mais en termes de création macro sur le PIB...
Vous partez du principe que la réforme qui nous est présentée aujourd'hui est comparable en ampleur.
Non, mais elle est comparable en termes d'âge de départ. Après, on a des aménagements, il y a des choses, mais dans les autres systèmes, c'est exactement la même chose.
Sébastien Corchia.
Merci.
Très rapidement.
Raisonnement juste, mais beaucoup trop théorique.
Impact macro, impact politique, impact éventuellement financier. Parce que n'oublions pas que la dérive des déficits publics français, de la dette française, et les marchés vont regarder quoi? Pas si la réforme, elle est petite, elle n'est pas petite, ils vont regarder si elle va être faite, s'il y a une réforme. Et n'oubliez pas que la France, avec son taux d'endettement qui est en train d'augmenter et de dériver vers celui du Portugal, de l'Italie, elle risque dans cette histoire-là éventuellement de voir sa note dégrader. Non, on en approche, Marc, on en approche et ça peut être dangereux.
Pascal, très rapidement.
Moi, très vite, il y a un mot que je veux dire, c'est compétitivité. Je trouve que la place de la France aujourd'hui dans ce schéma-là européen, elle est un peu horrible. Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Déjà, c'est 27% de nos dépenses publiques, les retraites, donc on est pire par rapport à la moyenne européenne.
Les dépenses publiques, mais c'est 14% par rapport à la richesse. Donc il faut ça
oui, dépense. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est quand même important par rapport aux autres pays européens. C'est ça que je veux dire. Le taux d'activité, c'est parmi les plus faibles par rapport à nos voisins. Le travail des seniors, c'est une catastrophe. Les plus jeunes, j'adorerais qu'on en reparle, mais comme je sais que je dois aller vite, les plus jeunes, c'est une catastrophe. Et moi, je trouve aujourd'hui que cette réforme, elle est plus que nécessaire pour qu'on regagne en compétitivité, ne serait-ce que par rapport à nos voisins européens.
Non mais quand on a 160 milliards de déficit commercial l'industrie qui ne pèse plus que 9% du PIB, si vous croyez que c'est votre petite réforme des retraites
Emmanuel, il faut arrêter de débattre avec Mélenchon.
Il faut avoir une idée quand même des ordres de grandeur.
Allez, on passe tout de suite à la troisième rubrique, le chiffre de la semaine, c'est le taux terminal des banques centrales. Cette semaine encore, tous les prévisionnistes ont relevé l'objectif de fin de hausse, c'est ça le taux terminal, de hausse des banques centrales. Alors on pinaille, est-ce que ça sera 5,25 aux États-Unis ou 5,5 en Europe, 3,5 ou plus? Franchement, Anne-Sophie, est-ce que c'est important de pinailler sur ces 0,25? On est tous en train de se dire, oh là là, le chiffre du chômage a été meilleur et la Fed va continuer de 0,25. C'est important ou pas?
Alors,
ce taux terminal.
Exactement, en termes macro, non. Ce qu'on regarde beaucoup, en effet, c'est est-ce qu'on va être en récession ou pas. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même des beaux chiffres, toujours pareil, de l'emploi. Donc on est aussi dans un scénario qui est assez bon, aussi par rapport à ce qu'on attendait aux États-Unis. Et puis, il faut se rappeler ce qu'avait dit le président de la Réserve fédérale, où il disait, attention, le but, c'est lutte contre l'inflation, même si on rentre en récession. Et là, on voit que par rapport à discours qui avait quand même été très alarmant, notamment aussi pour les marchés financiers, eh bien, on revient dessus avec l'idée de dire, finalement, on a un marché de l'emploi qui est là, on a une récession qui s'éloigne, on a plutôt de bons chiffres conjoncturels, donc
Justement, il y a cette peur que, en fait, la hausse
des taux... Oui, mais c'est plus une peur, on ne le voit pas vraiment dans les chiffres, et par rapport à ce qui était attendu, même par rapport
au moment où on parle... Mais dans les discours même des banques centrales, ils disent, on va continuer à monter les taux
d'intérêt, on ne sait pas où... On voit que les impacts qu'on attendait par rapport à ça, finalement... sont réduits
à la limite, même si ça monte un petit peu plus qu'attendu, c'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est ce que vous dites aussi, Emmanuel. Vous dites en fait que ça produit des effets négatifs.
Du niveau macroéconomique, après, sur les entreprises.
Non, mais lui, c'est pas ça.
Moi, ça fait partie des éléments qui rassurent sur les perspectives de l'année. C'est qu'effectivement, qu'on se batte sur un quart ou un demi-point, en gros, l'horizon, il est quand même balisé. Et on voit bien.
Il est balisé, l'horizon,
ouais. Il est balisé. Après, on peut débattre, est-ce qu'il y aura déjà une baisse des taux avant la fin de l'année?
Non, ça, c'est sûr. Bon, oublions ça.
Non, mais où est-ce que ce sera début? Mais vous voyez, c'est juste, on se base sur quelque chose. Non, mais
c'est quand même pas la même chose. Si le taux terminal aux États-Unis est à 5,25, notamment pour les marchés, on en parlera avec les gérants, et s'il est à 6%, c'est pas tout à fait la même chose.
Là, je pense que c'est pas du tout dans les anticipations aujourd'hui. Et que là, si on avait un déplacement des anticipations à ce niveau-là, ça créerait quand même quelque chose.
Aussi fort, 5,25 à 6, c'est pas non plus la.
Ça fait quand même un peu.
Ça fait quand même un peu. En tout cas, c'est pas ce qu'on anticipait.
Sébastien Corchet, c'est important pour.
Je demanderai à Pascal. 0,25 de plus ou de moins, ça change rien. En fait, la question, c'est de savoir est-ce que ça va vraiment être ça. Parce que vous avez, parmi la Fed, il y a différents membres votants. Et vous en avez qui sont plus faucons que d'autres. Je pense à Monsieur Bullard de la Fed de Saint-Louis, qui va jusqu'à 7, lui, par exemple. Et attention, aujourd'hui, on dit, finalement, les taux, même pas peur, ça n'a pas eu d'impact sur l'économie. Moi, je rappelle quand même que les hausses de taux, et quand elles sont en plus cumulées aussi fortes que ça, elles ont un effet, en tout cas historiquement dans l'économie, elles ont un effet 6 à 12, voire 18 mois plus tard. Donc au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière où on a l'impression que finalement, on a arrêté la machine et que ça n'a rien fait. On a fermé le chauffage.
En partie le robinet, mais pas en tant partie, ça, parce qu'en taux d'intérêt réel, on reste avec des taux d'intérêt réels.
Oui, mais ça va vite repartir avec la baisse de l'inflation. Donc les marchés s'en moquent à court terme parce qu'eux, ils considèrent 0,25 ou pas. De toute façon, c'est fini. Les banques centrales ne feront plus rien.
On est déjà sur le pivot.
Ils pensent à ça, mais attention, la réouverture de la Chine peut être un facteur d'inflation, c'est ce qu'on parle. On dit d'ailleurs, les économistes ont peur d'une chose, c'est de l'inflation en M, c'est-à-dire une inflation qui rebaisse, puis qui remonte, une sorte de plateau. Donc c'est pas si simple que ça en se disant tout est fini et ça n'a pas d'impact. Et notamment, il y a juste une chose, un secteur qui est dans une phase un peu de plateau et qui donne des signes de faiblesse un peu partout dans le monde et qui est très sensible au taux, c'est l'immobilier. Et ça pourrait avoir un impact sur l'économie.
Pascal Sévy.
Moi, je pense qu'effectivement, le taux terminal, finalement, c'est pas ce qui est le plus important parce que quoi qu'il en soit, le gros du chemin est fait. Qu'on s'arrête à 25, 50 ou 6, finalement, c'est pas ce qui va compter.
C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent à 6, c'est pas à 5, 25.
Ça a forcément un impact, mais c'est pas ça qui compte.
L'idée que l'essentiel est fait, c'est très important.
Le plus important pour nous, c'est vraiment de comprendre, finalement, on a parlé d'inflation temporaire à un moment. La question qu'on se pose un peu aujourd'hui, c'est est-ce que la désinflation est temporaire? Et je rejoins à ce que vous disiez. Il y a quand même des poches d'inflation qui sont installées dans certains secteurs ou la boucle prix-salaire aux États-Unis notamment. Et si jamais la désinflation est temporaire, on va clairement rester, en tout cas, sur des politiques monétaires restrictives qui vont durer. Et la plus grosse interrogation de Powell aujourd'hui, c'est de se dire, attention, l'erreur à faire, c'est pas d'avoir réagi trop tôt ou trop tard, d'avoir monté les taux. C'est à quel moment on repasse dans un assouplissement monétaire. Et là-dessus, la réponse est compliquée. Et en plus, ça va être désynchronisé entre la Fed et la BCE. Ça, c'est certain.
Anne-Sophie, on pourrait vivre avec une inflation à 3% ou 3,5%. Alors, pourquoi ce niveau de 2%?
Il faut 2% se rappeler que pendant 10 ans, on avait absolument pas du tout d'inflation, malgré tout ce qu'on essayait. On disait que ce serait bien, notamment concernant notre taux d'endettement, parce que avec même plus, c'est Joseph Stiglitz qui en parlait, on serait même à 4%, ce serait vraiment la solution concernant l'endettement. Donc, normalement, on peut. Bon, après, en Europe, c'est 2%, donc c'est ce qui a été fixé, c'est quand même le mandat des banques centrales. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il faut mieux 2, 3, dans un contexte où on sait que le niveau des prix va rester durablement haut, avec crise énergie, transition. Après, c'est la trajectoire qui va baisser, mais le niveau des prix va rester élevé. C'est sûr que, il y a une question de se dire pourquoi les 2%.
Voilà, entre 2 et 3, on s'en fout complètement, quoi, en fait.
En tout cas, c'est ce qui est vraiment anticipé, puisqu'on sait que dans les prochaines années, on va tourner autour de ça. Après, pour revenir par rapport aux États-Unis, c'est toujours compliqué de comparer États-Unis-Europe, parce que c'est pas du tout la même nature d'inflation. Donc même si on le répète à chaque fois, en Europe, on est vraiment sur une inflation importée. Donc c'est pas du tout
Est-ce que vous partagez l'inquiétude de Sébastien qui dit attention, parce que peut-être que ça durera plus longtemps et du coup, on est un peu trop positif par rapport à l'inflation et au taux.
Alors oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des retournements, mais je dirais que s'il y a un retournement, il y aura sûrement un gros choc, qui à mon sens sera plutôt un choc géopolitique, et donc là qui touchera absolument tout le monde. Ouais. Et dans ce cas-là, je ne dis pas que ces débats seront secondaires, mais malheureusement,
Emmanuel Deschamps nous a prévenu en début d'année qu'il n'y aurait pas de choc.
En fait, l'inflation, pour les marchés, c'est que le pic d'inflation est derrière et la baisse va être linéaire et il n'y a pas d'autre scénario, tout se passe bien. En fait, l'inflation, dans notre jargon, on dit qu'elle est un peu collante. C'est-à-dire qu'elle dure plus longtemps et on sait qu'elle met du temps à s'évacuer. Et c'est vrai qu'on le voit là un peu régulièrement. Il y a de l'inflation dans les services, ça se transmet par capillarité à toute l'économie. Et ça va être plus long qu'on ne le croit et en tout cas sûrement plus long que les marchés ne le croient.
On n'a pas le temps. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va se poser la question de savoir si la hausse va continuer. Pourquoi elle est si mal aimée? Quel secteur boursier il faut privilégier aujourd'hui compte tenu de la hausse qu'on a eue? Est-ce qu'il y a encore des opportunités? Évidemment, le top 3 des gérants, le mot de la semaine de nos Jedi et les actions à acheter ou vendre à tout à l'heure.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission avec Emmanuel Le Chypre en pleine forme. Vous ne le voyez pas, il a une chemise, une cravate et une veste, mais en dessous, il est déjà en maillot de bain prêt en vacances. C'est vrai, non? On voit, il a les tongs. Il a les tongs. On vous montre pas. On vous montre pas parce qu'il y a des enfants qui regardent cette émission. Donc je préfère ne pas montrer Pascal Sévi qui lit ses notes, qui a travaillé. Elle a travaillé. Hein.
Et je suis pas en
elle a préparé l'émission. Sébastien Korchak, je sens un peu pessimiste sur l'avenir et qui trouve un peu que tout le monde est un peu équilibré. Et Anne-Sophie qui m'a dit que ça me ferait du bien d'aller prendre des cours du soir de façon assez régulière et qu'il m'en faudrait un certain nombre pour atteindre le niveau qui serait admis par Emmanuel Le Chypre. Allez, on passe tout de suite au marché. Waouh, c'est chaud quand même. Hein. Il y avait peu de gens qui l'avaient prévu. On avait senti un changement d'ambiance à l'émission. Dès la première émission, il y avait une sorte d'optimisme sur les marchés alors que c'était la déprime totale en fin d'année. Mais franchement, le CAC à 13%, le DAX à 12% de hausse, le S&P 6,5%, le Nasdaq 13,5%, avec un record cette semaine, jeudi, sur le CAC. Bon, c'est quand même très étonnant. Alors, ce qui est très étonnant dans cette hausse, et je vous l'ai dit en ouverture de l'émission, c'est que le Wall Street Journal dit que c'est la hausse que tout le monde déteste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un me croise ou qu'on se parle, les gens disent « Ah, mais c'est incompréhensible, c'est complètement déconnecté de la réalité. C'est quoi cette hausse de trucs alors qu'on a cette hausse des marchés ?» Est-ce que vous ressentez ça, Sébastien? Est-ce que vous, quand vous regardez le niveau, franchement, vous regardez le niveau du CAC, est-ce que vous vous dites « Bon, bah, ok, normal. » Ou est-ce que vous dites « Les mecs se marchent sur la tête. »
Un peu des deux. C'est-à-dire qu'on peut se dire que le marché est rationnel. Il a changé de braquet très très vite,
totalement.
Effectivement, entre le 31 décembre et le 1er janvier. Pourquoi il a fait ça et pourquoi il est rationnel de faire ça? C'est-à-dire qu'il s'est dit, première chose, ouverture de la Chine. Ouverture de la Chine, c'est ce que je disais en première partie d'émission. Ça amène tout un tas de biens. Les entreprises peuvent tourner, les consommateurs peuvent consommer.
On fait sauter un goulet d'étranglement.
Le PIB repart, la consommation est là et tout ça. Et finalement, le marché le joue bien. Il le joue intelligemment puisqu'il a joué les valeurs cycliques à l'achat.
On va en parler après sur des
secteurs. Il a vendu les valeurs défensives puisqu'il considérait plus qu'il était dans un environnement défensif. Il a acheté des valeurs qui étaient très tournées vers la Chine, les compagnies aériennes type Lufthansa, le tourisme, des valeurs comme SEB qui sont très tournées vers l'Asie, le luxe. Donc il est rationnel là-dessus. Le problème c'est que comme d'habitude il va trop vite, trop fort et il considère, et c'est là où peut-être il rentre dans un début de forme d'exubérance, il considère finalement qu'il n'y a qu'un scénario et pas d'autre, c'est-à-dire ça y est, c'est bon, la croissance elle est là, on en parlait en première partie d'émission, plus ou moins
mais c'est
forte,
normal,
mais
ils écoutent Emmanuel, ils écoutent Anne-Sophie,
la croissance est là, l'inflation est derrière nous et on prend le pari que elle va descendre de manière linéaire, et c'est là où on a fini la première partie d'émission en disant c'est peut-être pas si linéaire que ça, puis il considère qu'il n'y a pas de risque puisque vous regardez le VIX, il est redescendu à des niveaux...
L'indice de peur des marchés.
Il est redescendu à un niveau qui est quasiment le plus bas. Et il se dit, finalement, il n'y a qu'un seul scénario, on le joue jusqu'au bout, et on va même plus loin, c'est qu'on fait le bras de fer avec les banques centrales, on les écoute même plus, et on considère que c'est nous, marché, qui avons raison. Attention, ça c'est le marché action. Le marché obligataire a une lecture un petit peu plus timide des choses, il est toujours dans une vision d'inversion entre deux eaux, et quant au marché des matières premières, par exemple, il n'est pas dans une euphorie extraordinaire qui vous dirait, ça y est, la croissance est repartie, il n'y a plus de risque. Donc il y a trois lectures quand même différentes.
Donc, est-ce que vous dites prudence?
C'est ça. En tout cas, c'est sûrement aller trop vite, trop fort, et qu'on ne peut pas avoir un seul scénario linéaire tout au long de l'année sans anicroche aucune.
Pascal Sévi, prudence ou pas?
Pas sur tout, forcément. Moi, je voudrais quand même souligner le fait... Alors, sur les obligations, il y a quand même des flux entrants qui sont assez significatifs en ce début d'année.
Qu'est-ce que vous appelez des flux entrants?
Sur les fonds obligataires, par exemple, ouais. On a des investisseurs qui sont en train d'acheter quand même assez massivement. Et on voit quand même que c'est une classe d'actifs aujourd'hui qui attire les investisseurs. Et moi, j'ai envie de vous dire que Tina is dead, hein, si je puis me permettre. Parce qu'on a dit très souvent, très longtemps, there is no alternative aux actions. Et aujourd'hui, je pense quand même que l'épargne est en train de se router notamment vers d'autres produits sur lesquels on a moins de volatilité, une visibilité plus importante sur les rendements qu'on peut en obtenir et une compréhension du risque qui, quand on achète des obligations de bonne qualité, qui est quand même
à commencer
aussi
par le livret A. Hein. Le livret A à 3%, c'est devenu une petite alternative. Qui va payer la retraite, mais à 3%, c'est mieux que zéro.
C'est intéressant pour les petits épargnants, mais évidemment, comme il est limité évidemment à 22 500 euros, nous on regarde sur des patrimoines un peu plus élevés et nos clients aujourd'hui sont quand même assez intéressés. Après, sur la poche action, je rejoins ce que vous avez dit, il y a des facteurs qui ont quand même rassuré les investisseurs en ce début d'année. On en a un tout petit peu parlé, mais ce qui se passe en Europe, le fait qu'il n'y ait pas eu non plus tous ces problèmes sur l'énergie, qu'on attendait un scénario archi-catastrophique qui n'est pas arrivé, les températures clémentes, on peut l'expliquer de plein de manières, ça a rassuré quand même beaucoup les investisseurs. Et puis les banques centrales, même si, alors là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, qu'on va à leur rencontre.
Vous n'êtes pas d'accord avec Sébastien?
Si, sur plein de choses, mais juste là-dessus, sur les banques centrales, on a parlé des taux terminaux tout à l'heure, on sait qu'on n'en est pas loin, on ne sait pas quand on va réassouplir de nouveau, mais je trouve que les investisseurs travaillent à terrain plus connu par rapport à l'année dernière, où les hausses ont été quand même massives et ont beaucoup impacté les placements aussi. Donc, moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Je suis plutôt optimiste là-dessus. Elles ne sont pas que dans les actions. Il y a d'autres classes d'actifs à aller chercher. Et sur les actions, toujours pareil, en étant sélectif et aller chercher, on va en parler, les secteurs qui vont bénéficier de cet environnement, il y a aussi des opportunités à saisir.
Que se dit une économiste quand elle regarde les marchés financiers?
On regarde beaucoup en effet la politique monétaire et par rapport à ça, c'est ce que vous dites, hein, c'est quand même assez anticipé ce qui peut se passer cette année. Donc il y a toujours un scénario noir, mais à mon sens qui est plus géopolitique et macro. Mais sinon, sur la trajectoire des taux, c'est assez anticipé, il ne devrait pas y avoir d'énormes surprises. Et donc c'est vrai que l'embellie qu'on peut avoir, ça peut toujours être fragile sur certains secteurs, mais globalement, ça va un petit peu de pair avec ce scénario banque centrale.
Et j'ai encore une question purement théorique, mais est-ce que les marchés financiers, c'est aussi un facteur macroéconomique? Parce qu'il y a ce fameux effet richesse, ce wealth effect, qui fait que notamment aux États-Unis, avec la hausse de la bourse, on a à nouveau une capacité d'épargne, une capacité de consommation, une capacité d'emprunt. Est-ce que c'est de la macro?
Non, pas forcément, parce que c'est un peu ce qu'on disait sur la réforme des retraites. Macroéconomiquement, ça a un impact, mais après, il y a la question politique de comment vous le redistribuez et qui va en profiter. Et ce qui se passe, on le voit notamment aux États-Unis avec des hausses des prix qui ont été quand même beaucoup plus importantes, c'est que vous avez aussi une augmentation des inégalités et de la classe, on va dire, moyenne-moyenne-basse, qui a été très paupérisée. Or, c'est cette catégorie-là qui consomme et donc qui injecte de l'argent dans l'économie.
Sébastien, vous voulez rajouter
très rapidement? C'est intéressant ce que vous avez dit, parce que dans les minutes de la Fed du mois de décembre, c'est pas si loin que ça, le mois de décembre, la Fed rappelait bien, les membres de la Fed rappelaient bien.
Les minutes, c'est le compte rendu.
C'est le compte rendu, qu'ils seraient très vigilants sur le fait que les marchés intègrent bien les anticipations de la Fed et ne repartent pas d'eux-mêmes dans une forme de hausse qui pourrait être génératrice de l'inflation par les actions. Mais par la baisse des taux qui relancerait elle-même les investissements, les actions. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, la hausse des actions et la baisse des taux longs, c'est quelque chose que la Fed n'aime pas et qu'elle avait cassé une première fois l'année dernière. Donc, c'est pour ça que je dis que là, il y a un peu les marchés d'un côté, la Fed de l'autre, et que il y a un moment, il y en a un des deux qui doit reprendre, quoi. Peut-être la Fed le poids sur les marchés.
Emmanuel Lechy, parce que vous vous dites, ils sont fous ces traders et ces investisseurs.
Non, parce que rappelez-vous, là, vous parliez de la première émission de l'année à laquelle j'avais le plaisir de participer, et même avant, quand on déroulait ce scénario, on avait la conclusion, c'était 2023, ce sera une année bénie pour les marchés. Il y a tout ce qu'ils aiment. Quand vous dites, il va pas y avoir de catastrophe. Macroéconomique, on a un horizon assez balisé.
Ils n'aiment pas les taux d'intérêt élevés.
Oui, mais la hausse des taux d'intérêt, elle était déjà en partie derrière nous.
C'est vrai.
On avait l'horizon, la visibilité. Il y avait les perspectives sur la Chine. Il y avait effectivement l'hiver qui se passait bien. Donc, on était assez optimiste aussi sur les marchés. Après, là où je suis d'accord, alors, En même temps, Sébastien, les marchés, ils achètent souvent un seul scénario. La réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont acheté quand même ce qu'on peut considérer comme le scénario le plus...
C'est ça, optimiste. L'alignement des planètes...
Voilà, le plus optimiste, et il n'y en a pas vraiment pour eux d'alternatif, sauf les autres marchés.
Donc effectivement, il n'y a pas de risque... Enfin, je vois pas, il n'y a pas beaucoup de risques de très bonnes surprises dans les cours aujourd'hui. Non. Par contre, il y a des risques, effectivement, il y a des mauvaises surprises.
Allez, la question d'argent de la semaine, justement, soyons précis, messieurs et mesdames les gérants, dans cette phase de marché, quel secteur sur les actions faut-il privilégier, Pascal ?
Moi, je veux juste dire, juste avant de parler de ça, je veux juste très vite, parce que c'est important. Les marchés, oui, je vais vous répondre, les marchés sont aussi montés sur des revalorisations des prix, en fait, des cours. Pas forcément sur la croissance des bénéfices, ça va être important. Et quand on regarde le marché européen, on est, en termes de valorisation, sous les moyennes historiques à 8 ans. Et donc, c'est intéressant parce que c'est encore sous-valorisé. Donc ça, c'est un point important.
Par rapport à leurs résultats.
Exact. Et en plus, l'euro devrait monter par rapport au dollar, ce qui est aussi intéressant pour des investisseurs européens. Pour répondre à votre question...
Là, je suis prêt à prendre un pari. Je ne suis pas convaincu que l'euro devrait remonter.
Je suis prête à prendre le pari aussi. Moi, j'en suis intimement convaincue. Ne serait-ce que, j'en parlais tout à l'heure, la désynchronisation des banques centrales qui va finir par arriver, puisqu'on a au moins 6 mois de retard. Et comme on l'a dit, l'inflation étant différente en Europe, il y a des chances pour que ça dure encore plus longtemps. Okay. Et donc peut-être moins d'inflation importante. Les secteurs, je réponds à la question. Je vous en ai listé 6, parce que vous voyez, j'ai travaillé pour vous.
Comme d'hab.
Vous m'avez demandé d'être précise. Donc en gros, pour les valeurs qui bénéficient de la détente sur les taux, parce que ça a un effet positif sur leur valorisation, la tech.
Okay.
Je pourrais vous faire un quiz, d'ailleurs.
Non, c'est bon.
Les valeurs très décotées qui bénéficient aussi de la détente sur les taux, et très décotées, les foncières, on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, c'est des niveaux de valorisation qui sont vraiment très attractifs. Donc, foncières cotées.
Sébastien nous dit, faites attention à l'immobilier quand même.
Oui, mais c'est vrai que les foncières, l'immobilier physique n'a pas encore baissé, les foncières en bourse ont déjà intégré cette
possibilité. Ils sont bons, bonne réponse.
Massacrées en plus.
Bonne réponse au quiz.
Les valeurs qui bénéficient d'un environnement de taux plus élevé et de valorisation attractive, ça, c'est les valeurs bancaires.
Les banques.
Voilà. Les valeurs exposées à la Chine.
Ouais, ça c'est facile.
Le luxe.
Pas que.
C'est la première à laquelle, le premier secteur auquel on pense quand même. Après, ce que moi j'appelle les valeurs incontournables, parce qu'il y a une telle position dominante, notamment les semi-conducteurs, on ne peut pas s'en passer. Quoi qu'il arrive, je dirais, dans l'environnement macro, mais c'est volatile. Donc en plus, là, c'est bien monté. Et le dernier, du rendement et une valo qui reste attractive, c'est l'énergie. Malgré tout, c'est intéressant aussi. Voilà, moi, mes 6 secteurs de prédilection sur l'année.
Sébastien Corchia, même question, réponse précise.
Oh, presque même réponse.
Ah non, vous n'avez pas le droit de copier sur votre voisine.
Mais la copie était quand même très complète et presque parfaite ou parfaite.
Merci.
C'est-à-dire que le secteur, effectivement, de l'énergie, des secteurs de l'énergie et des banques, c'est un secteur dont le monde value, c'est-à-dire quand les taux sont sur ces pentes-là, c'est un secteur qui reste intéressant.
Mais on a
et
le marché y va là-dedans.
Bah, il faut
plus le droit. C'est pour ça que je vous ai chauffé là. On n'a plus le droit.
On peut toujours. Après, ça dépend les produits, ça dépend les gestions, et puis individuellement, les gens peuvent toujours. En tout cas, ça fait partie des indices et de l'indice CAC 40 notamment. C'est vrai que tout ce qui est lié à la Chine reste intéressant. Je mettrai un bémol en termes de valorisation quand même sur le luxe. Et la Chine, faudra voir finalement si c'est une réouverture puis une relance, ou si c'est une réouverture et on dope un peu la consommation. On n'a pas l'air d'aller plus vers de la relance, en fait, notamment parce que le marché de l'immobilier est complètement sinistré. Et donc, ça a des impacts sur les matières premières. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les matières premières ne s'envolent pas. C'est qu'elles ont un doute sur cet effet Chine.
Je reviens juste sur le luxe. À chaque fois qu'on dit prudence sur le luxe...
On se fait avoir.
Bah ouais.
On se fait avoir. Mais
il y a un moment, est-ce qu'il y a un secteur, est-ce que c'est le seul secteur où les arbres peuvent monter jusqu'au ciel?
Non, jamais en bourse, les armes ne montent jusqu'au ciel.
C'est un secteur qui a un atout considérable, c'est le pricing power.
Quand même. Oui.
C'est pour ça qu'il
il a quand même une limite.
Il y a une limite pour tout. Et puis, quand vous faites du luxe à échelle planétaire, au bout d'un moment, quand tout le monde a le produit, quelle est la définition du luxe, en fait, quand il devient si massif? Mais au-delà de ça.
C'est philosophe. Est-ce que le luxe, c'est la rareté ou est-ce que c'est la qualité?
Exactement. La deuxième chose, mais vous avez d'autres proxys. Les compagnies aériennes, par exemple, prenez Deutsche Lufthansa, qui est très aligné avec la Chine. C'est d'autres façons de jouer la Chine. La réponse que je ferai, c'est de dire attention, les marchés dans cette première phase ont été comme d'habitude. Je choisis une façon d'opérer. Donc les cycliques, les bancaires, je vends les défensives et puis j'essaie deux trois trucs à côté. Ils peuvent être tentés à des moments de faire des arbitrages un peu violents et de prendre leurs bénéfices. Et donc il faut pas, comme toujours, il faut regarder un peu ce qui a baissé si ou n'a pas monté si c'est pas excessif.
Et qu'est-ce qu'il y a ?
Les valeurs de santé par exemple qui sont restées à l'écart, les valeurs de la distribution dont on a pu voir cette semaine par exemple que Carrefour avait finalement pas trop mal publié. Donc faut pas être comme on a pu être avant, c'est-à-dire on regarde qu'un côté de la cote et puis on jette tout le reste. Je pense que l'année va être longue et compliquée, y compris sur les taux.
Comme toujours, non
et, oui, comme toujours.
Longue et compliquée.
Là, on est arrivé à un niveau où finalement, c'était presque l'objectif pour la plupart des...
Oui,
des,
largement au-dessus même.
Largement, à dividendes inclus, au 31 décembre. Ouais, on est fin février. Donc, il va falloir être beaucoup plus sélectif. Je rajouterais juste une chose. Tout le monde à peu près dit que cette année, ça serait sûrement l'année des small caps, des petites et des moyennes valeurs. Ça a démarré, mais doucement. C'est un indicateur intéressant, ça montre que le marché n'est pas pleine balle quand même. Parce que quand le marché est très positif, il va tout de suite vers les petites et les moyennes valeurs. Pour l'instant, il n'y a pas été. Et là, il y a quelque chose peut-être à faire en se disant, allez, c'est pas plus idiot de faire ça que les autres. Il y a des valorisations historiques, des petites contre les grandes, qui sont très en retard et qui sont sur des niveaux relatifs de 2008, par exemple.
Intéressant. Quel est le mot de la semaine pour vous,
Anne-Sophie ? La résistance du marché de l'emploi, on en a pas mal parlé, États-Unis, mais aussi en France. Hein, même si on s'attend cette année
et en Europe,
une augmentation un petit peu légère, hein, mais on restera en dessous des 8%. Alors pour la France, la difficulté, on l'a dit, hein, c'est toujours le chômage chez les moins de 25 ans et sur les plus de 55 ans. Hein. Le gouvernement essaie d'aller avec les réformes, mais ça mettra beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est de bons chiffres. Il faut quand même rappeler qu'on n'est pas aussi au plein emploi. Hein. On n'est pas aux 4-5% allemands ou américains. Donc il y a encore une marge de manœuvre, mais on peut dire quand même
et
que
belle performance en zone euro quand même, hein, avec 3,7 millions de nouveaux emplois par rapport à fin 2019. C'est quand même assez spectaculaire. Sébastien, le mot de la semaine pour vous ?
Le mot de la semaine, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le rallye le plus détesté. Ouais. Et alors on appelle ça aussi dans notre jargon le pain trade, le trade de la souffrance en fait, parce qu'il fait mal, aussi mal qu'un crack baissier. Hein, c'est une sorte de crack haussier. Et le mot qui va avec, généralement, qu'on ressort, c'est le mot FOMO, fear of missing out, c'est-à-dire je suis obligé d'acheter parce que même si je comprends pas, je suis obligé d'y aller. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'argent dans ces marchés qui attendaient au 31 décembre que la bourse baisse, qu'il y a une présence de gérants qui se sent oppressés en fait d'aller acheter le marché pressé. Et cet effet FOMO qui n'est jamais un bon conseiller comme de vendre dans un crack, on sent quand même que les gens ont le doigt sur le bouton, donc ça peut propulser un peu plus haut encore les marchés avant qu'il y ait une sorte de correction.
Pascal.
Mon mot de la semaine, c'est ChatGPT. Je pense que vous tous savez ce que c'est, mais peut-être ceux qui nous écoutent, pas forcément. Donc, c'est un robot conversationnel qui a été créé par une société qui s'appelle OpenAI. Et en gros, ils l'ont lancé en novembre. Il y a déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Pourquoi j'avais envie d'en parler? Parce que, au-delà du fait que ça peut quand même avoir des effets très effrayants, comme détruire un certain nombre d'emplois, il y a aussi des effets vertueux qui sont intéressants. Mais surtout, ça peut être un vrai game changer pour les GAFAM les plus importantes. Puisqu'en gros, Microsoft est en train de mettre, ou a mis d'ailleurs, l'outil à disposition dans son moteur de recherche, ce qui a quand même largement distancé Google, qui lui a en plus fait une démonstration d'un peu du même outil qui a été un peu catastrophique parce qu'il y avait des erreurs. Et ça peut permettre à Microsoft de gagner de très fortes parts de marché dans un domaine qui est ultra compétitif. Donc je pense que c'est à observer de très près dans les prochaines années.
Emmanuel Le Chypre. C'est vacances.
Je lui ai fait peur. J'adore être plongé dans la vie des marchés.
Capitalisation, parce que je regrette chaque jour quand on entend tous les débats sur la retraite que
on en parle pas
sans idéologie aucune, on se dise pas et si on mettait une petite dose finalement de capitalisation dans tout ça plutôt que de se dire bah si on, en fait ce qu'on voit c'est qu'avec la seule répartition
une débauche à la base.
Bien sûr, rappelez-vous, Jaurès effectivement encourageait la capitalisation et on se dit franchement tous ces débats sur les profits exagérés de Total, de LVMH, on se dit bah finalement si tout le monde en profitait un petit peu, ce serait a priori pas absurde, sans pour autant basculer d'un système vers un autre. Et donc ça rejoint cette idée que je trouve que cette réforme des retraites, c'est des discussions d'il y a 30 ans de part et d'autre. C'est-à-dire que du côté des promoteurs de la réforme, c'est des solutions d'il y a 30 ans, et des côtés des détracteurs de la réforme, c'est des solutions d'il y a 50 ans. Et je comprends la frustration des gens en fait sur finalement ce débat.
On a le temps on n'a pas le temps d'en parler, mais les Français ont opté quand même pour la retraite par capitalisation de fait. Parce que quand on a un taux d'épargne, on en parlait avec Anne-Sophie, qui est autour de 16%, c'est qu'en fait, ils ont déjà...
Mais Marc, c'est là où c'est révoltant.
Le PER, c'est de la retraite par capitalisation.
C'est là où c'est révoltant, c'est que c'est de la capitalisation hypocrite.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens...
Mais massive.
Ceux qui ont les moyens, bien sûr, le PER, 6 millions.
Oui.
La capitalisation, c'est de l'immobilier, etc. Et les cocus dans l'histoire, c'est les plus modestes qui vont se retrouver avec une retraite par répartition faible. Et ça, c'est quand même déplorable.
Allez, on passe tout de suite au top 3, ça fait du bien. Waouh, d'avoir des bonnes performances après des performances dégueulasses l'année dernière. Je vous rappelle que la meilleure performance, c'était zéro. Pierre Chang est à 20,8%, Virginie Robert est à 17,5%, Louis de Montalembert à 17,4%. Franchement, ça fait du bien. Je suis très content pour les géants, les performances sont toutes belles. Pascal Sévy, vous avez une performance de 15% depuis le début de l'année. Je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce que je fais. On a du Visa, on a du GTT,
pareil.
On a du Salesforce, on a du ASML,
ouais, plus que jamais.
On a du Texas Instruments.
Mm-hmm. C'est quoi ASML ?
Leader des semi-conducteurs, boîte hollandaise.
On a du Stellantis.
Ouais.
Ils ont fait des résultats incroyables, ASML.
Ouais,
on a du Adyen, on a du Sika, on a du Stroman, on a du Fortinet, on a du Thermo Fisher Scientific, on a du Nexans. On a du Veolia, ça prend 20% depuis le début de l'année, Veolia, c'est dingue. Il y a vraiment des valeurs. Et on a du Saint-Gobain, c'était votre dernière recommandation. Qu'est-ce qu'on achète ?
Justement, on achète Microsoft. Bon, tout le monde connaît la société. Juste un mot, c'est le leader mondial de la conception, développement, commercialisation de logiciels et systèmes d'exploitation. C'est justement intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Le ChatGPT, c'est un peu un vrai game changer pour eux, parce que ça va leur permettre de prendre des parts de marché dans un domaine où ils étaient peut-être un petit peu plus faibles. C'est une société évidemment qui est très bien gérée, avec un chiffre d'affaires qui est bien réparti entre les différentes poches. Ils sont aussi très présents sur le cloud, un marché en énorme croissance sur lequel ils sont aussi en train de gagner des parts de marché. Et en plus, parmi toutes les valeurs de la tech, si on a une à choisir qui a, je trouve, pris le meilleur virage, je pense notamment à Meta, qui pour le coup qu'on n'a pas envie d'acheter, je pense que c'est Microsoft.
Et
le timing me semble bon.
Ou pas en 2022. Ils sont pris une tôle en 2022 en termes de perf.
Pas autant que d'autres, mais la valorisation reste encore assez attractive, même si c'est une valeur qui est très prometteuse.
Sébastien Corchia, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait. On a du E.ON.
On garde.
On a du Sudzucker.
Sudzucker, on garde.
On a du Carrefour, bravo.
On garde.
On a du Bouygues.
On garde.
On a du Chargeur.
On garde.
On a du Orange.
On garde aussi.
On a du Villemorin.
Oui.
Vous aviez acheté du Technip Énergie, ça fait presque 30% depuis le début de l'année.
Oui, on va la garder.
Ah ben on vend rien alors. On a du Worldline.
On va la garder.
Et on a du Aramis.
Qu'on va vendre, qui était une déception de la sélection.
C'est pas dramatique non plus. Qu'est-ce qu'on achète ?
On va acheter du Alstom. On va revenir sur dans l'idée de ces valeurs qui sont un petit peu en retard, qui ont été mis de côté par le marché. Numéro 2 dans le monde du ferroviaire, dans le monde, après derrière un Chinois. Alors, vous savez qu'Alstom, c'est un des très mauvais parcours de la bourse ces dernières années. Qu'est-ce qu'on reprochait à Alstom, en fait, de manière assez simple ? On lui reprochait d'avoir un carnet de commandes qui était pas top, avait pas une grande visibilité, même insuffisant. On lui reprochait d'avoir pris des commandes qui n'étaient pas rentables, voire qui pouvaient perdre de l'argent, d'avoir en plus une mauvaise exécution, d'avoir des problèmes de trésorerie. Donc, éventuellement.
Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup. Et le titre s'est effondré.
Il s'est effondré.
Et puis.
Effondré, c'est-à-dire, il a perdu.
Ça dépend par rapport au plus haut, mais on est sur des moins 70, des choses comme ça.
Bon, enfin, quand vous faites la liste, vous dites que.
C'était normal. Et puis après, ils ont acquis Bombardier. Et finalement, le marché s'est dit peut-être un risque d'exécution. Quand on re-regarde avec un peu de temps qui passe, ce qui s'est passé, le carnet de commandes, il est record désormais. Donc là, on a de la visibilité. Les nouvelles commandes, elles se sont faites à des prix et à des niveaux de marge qui n'ont rien à voir avec ce qui était avant, ce que le marché reprochait. Ça veut dire que ça va diluer par le haut, en fait, le stock des anciennes commandes. Et puis, c'est beaucoup plus vertueux, c'est quand même meilleur. La trésorerie, qui pouvait être un sujet chez Alstom, n'en est plus un. L'exécution s'est améliorée. Et puis, Bombardier, pour le coup, l'entreprise, alors il faut les croire, mais nous dit tout ça s'intègre bien, ça génère des synergies. Donc, vous avez tout l'effet inverse. Et finalement, quand vous regardez aujourd'hui la valorisation de Alstom, ça se paye 30%. Ça a un petit peu rebondi, mais ça se paye 30% de moins que sa moyenne historique. C'est normal. Il y a une sorte de décote de prudence du marché qui se dit... avoir une fois, on va attendre. Mais les publications qu'on a pu avoir, les unes après les autres, montrent vraiment qu'on est revenu dans... Allez, je vais faire un jeu de mots, mais qu'on est revenu sur les rails. Et oh. Pour le coup,
elle était préparée.
Donc, pour le coup, on va suivre Alstom sur ses rails et on se dit, allez, dans le temps, quand le marché prendra conscience que les choses vont mieux, cette décote se réduira.
On finira donc l'émission sur ce bon mot. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent. Emmanuel, bonnes vacances. Revenez-nous vite, on a besoin de vous. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir, nous réécouter, nous revoir encore sur le replay et podcast sur toutes les plateformes. Et on a des super scores.